إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Donc après avoir traité du chapitre de l'adorature, l'istiqama, l'imam al-Nawawi, rahimallahu ta'ala, enchaîne avec ce nouveau chapitre consacré à la méditation. Babun fi tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhira wa sa'iri umurihima wa taqsiri nafs wa tahdibiha wa hamliha ala l'istiqama. Et donc, dans ce passage, comme c'est le cas dans l'ensemble de son ouvrage, comme nous l'avons plusieurs fois répété, ce n'est ni accidentel, ni simplement thématique, mais ça s'inscrit dans une progression pédagogique profonde visant à construire le cœur du croyant de manière cohérente et progressive. En effet, dans le chapitre précédent, il a été établi que la droiture, l'istiqama, ne se réduit pas à une simple rectitude apparente dans les actes, ni à une discipline extérieure que l'on adopterait de manière ponctuelle. Nous avons dit qu'elle constitue plutôt l'expression d'un état intérieur stable, fondé sur une foi vivante, une connaissance authentique et une orientation sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala. Elle implique donc de se maintenir sur le chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tracé, sans s'en écarter ni par négligence ni par excès, et de persévérer jusqu'à la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et une telle exigence, elle soulève nécessairement une question essentielle. Comment le serviteur parvient-il concrètement à se maintenir dans cette droiture? Car on sait tous que l'état intérieur fluctue, les épreuves de la vie, et de nombreuses causes de distraction et d'égarement qui nous entourent. Il ne suffit pas de connaître la voie pour y demeurer. Le cœur humain est sujet à l'oubli, à la distraction et à la faiblesse. Dans cette condition, la droiture, elle ne peut être préservée que si le cœur est continuellement entretenu, réveillé et orienté vers le chemin droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est précisément ici que se manifeste toute la finesse de la méthodologie de l'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala. Étant donné qu'après avoir exposé la finalité, il introduit immédiatement l'un des moyens les plus puissants permettant d'atteindre cette droiture et de s'y maintenir, à savoir la méditation. Et la méditation n'est pas ici présentée comme un simple complément ou une recommandation secondaire, mais comme une clé essentielle dans la vie du croyant. Elle constitue une adoration du cœur par laquelle le serviteur y renouvelle sa foi. Il ravive sa conscience et rectifie son orientation. Elle lui permet de ne pas vivre les réalités de manière superficielle, mais au contraire de les comprendre à la lumière de la révélation et d'en tirer des enseignements qui renforcent sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sans cette méditation, les signes qui l'entourent, ils demeurent visibles, mais inefficaces. Combien de personnes voient la création d'Allah tabaraka wa ta'ala autour de eux, mais elle n'a aucun effet sur leur cœur. De même que les versets du Coran, ils les entendent sans que cela produise sur leur cœur d'effet durable. Ça a un effet spontané, comme on peut le voir avec le prêche du vendredi. Des personnes vont au prêche du vendredi, ils entendent un rappel poignant qui les réveille. Ils arrivent à la porte de la mosquée et ils retombent dans les futilités et dans l'amusement. On voit que ça a été inefficace. Pourquoi ? Parce que le cœur, il s'habitue. Il s'endurcit progressivement et finit par évoluer dans une forme d'insouciance qui affaiblit la foi et compromet cette droiture. A l'inverse, lorsque le serviteur il s'exerce à la méditation, chaque chose autour de lui devient une source de rappel. Les créatures qu'il observe, les situations qu'il traverse, les versets qu'il récite, tout cela prend un sens et contribue à renforcer sa foi. Il ne se contente plus de voir ou d'entendre, mais il comprend. Il s'interroge et il tire des leçons. C'est pour cette raison justement que les salafs accordaient une importance particulière à cette adoration. Ils savaient que la réforme du cœur, elle ne repose pas uniquement sur l'accumulation d'actes, mais également sur la qualité de la réflexion qui les accompagne, Donc il considérait la méditation comme un moyen d'accéder à une compréhension profonde de la religion et qu'elle constituait un facteur déterminant dans la stabilité du croyant. C'est pourquoi le lien entre la méditation et la droiture, entre le chapitre précédent et celui d'aujourd'hui, l'istiqama et aujourd'hui le tafakkur fi adim makhluqatillah, il devient évident. La droiture, elle nécessite une présence du cœur, une lucidité constante et une conscience claire de la réalité, comme nous l'avons dit. Toutefois, ces qualités, elles ne peuvent être maintenues sans un effort régulier de réflexion et d'observation. C'est là que la méditation agit donc comme un mécanisme de renouvellement intérieur, permettant au serviteur de revenir sans cesse vers la voie droite, même après des moments de relâchement. C'est également ce qui explique que la méditation soit classée parmi les adorations du cœur. Comme nous l'avons aussi précédemment dit, que ce soit dans les cours sur la croyance ou sur l'explication du chapitre précédent en ce qui concerne la droiture, que le cœur œuvre lui aussi. Il y a des actes d'adoration qui sont accomplis par le cœur, comme l'amour, comme la méditation, au même titre que la sincérité, la crainte ou la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme ces adorations sont souvent moins visibles que les actes extérieurs, elles sont parfois négligées alors même qu'elles en constituent le fondement. Beaucoup de personnes, elles s'attachent aux actes apparents, mais ils ne prêtent que peu d'attention à l'état de leur cœur. Alors que c'est précisément la méditation qui permet de relier les actes à leur sens, de transformer une pratique en une expérience spirituelle réelle et de donner à la fois sa profondeur et sa stabilité. Lorsque le cœur, il médite, il se transforme progressivement. Il passe de l'insouciance à la vigilance, de la dispersion à la concentration, de la faiblesse à la détermination. Ce n'est donc pas un simple exercice intellectuel de méditer, mais un processus de réforme intérieure qui va affecter l'ensemble du comportement chez la personne. Et c'est dans cette perspective que l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, introduit ce chapitre juste après l'istiqama, et en orientant immédiatement la réflexion vers des domaines concrets et essentiels. Il ne s'agit pas de méditer de manière vague ou désorganisée, mais de diriger cette réflexion vers des axes précis qui ont un impact direct sur la foi et sur la droiture. Ces axes, qui vont justement être développés à travers les versets et les hadiths auxquels l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala fait référence dans ce chapitre, concernent la création, ce bas monde, l'au-delà et l'âme elle-même. Et chacun de ces domaines, il constitue une porte vers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, une occasion de réforme intérieure et un moyen de se rapprocher de la droiture. C'est dans ce cadre que l'on peut désormais comprendre les domaines de la méditation que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala mentionne dans le titre de ce chapitre, qui sont en réalité des applications concrètes de cette réflexion sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient kauni ou shar'i. Après avoir compris le cadre général de la méditation et clarifié qu'elle s'exerce à travers les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient universels ou alors du domaine de la législation révélée, il devient maintenant possible d'entrer dans le premier domaine mentionné par l'imam al-Nawawi, rahimallahu ta'ala, à savoir la méditation sur les créatures. Lorsqu'il nous dit « Babun fit tafakkuri fi adimi makhluqatillahi ta'ala » le fait de méditer sur l'immensité des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce premier domaine est d'une importance capitale, car il constitue souvent le point de départ de l'éveil du cœur. Il s'agit de porter un regard attentif et réfléchi sur ce qui entoure le serviteur, non pas simplement pour observer, mais pour comprendre. Et à travers cette compréhension, parvenir à une connaissance plus profonde de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal attire à de nombreuses reprises l'attention des hommes sur les créatures qui les entourent. Il ne se contente pas de les mentionner, mais il les présente comme des signes, des preuves, des indications qui renvoient à Allah tabaraka wa ta'ala. La création n'est donc pas simplement un ensemble de réalités matérielles, mais c'est un langage adressé au cœur du croyant. Et c'est dans ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ce verset est particulièrement riche dans sa formulation. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala l'a sélectionné. Et nous le verrons plus tard, plus en détail. Mais ce qu'il convient de dire tout de suite, c'est que ce verset ne se contente pas d'ordonner de regarder. Il n'y a pas simplement l'injonction de regarder. Il oriente aussi le regard vers une observation réfléchie. Car le terme utilisé ici, « yandhurun », ne désigne pas simplement une vision, mais une observation accompagnée de réflexion et de considération. Le choix des exemples dans ce verset n'est donc pas non plus anodin. Le chameau, par exemple, pourquoi il a été mentionné dans le Coran ? Parce que c'est une créature qui était familière pour les Arabes, mais dont la complexité et la perfection pouvaient être facilement négligées par le fait de les côtoyer au quotidien. Le Coran invite donc à redécouvrir ce qui est proche, à sortir de la banalité apparente pour percevoir la sagesse et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala qui s'y manifeste. Et il en est de même pour le ciel, les montagnes, la terre. Tous ces éléments renvoient à des dimensions particulières de la création. Le ciel, ça nous montre l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les montagnes, la stabilité. La terre, l'étendue de cette dunya. En les contemplant, le cœur du croyant prend conscience de l'immensité de ce monde et de la perfection de son organisation. C'est cette contemplation qui, lorsqu'elle est sincère, elle produit un effet direct sur le cœur. Elle nourrit la vénération d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle renforce la certitude et elle développe un sentiment d'humilité face à la grandeur du Créateur tabaraka wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal dit également « Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa-ikhtilafi al-layli wan-nahar » Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala précise que ces signes ne profitent véritablement qu'à une catégorie particulière de personnes. Ils sont désignés par le terme « ulil al-bab », c'est-à-dire ceux qui possèdent une intelligence saine et un cœur vivant. Ça veut donc dire que la simple présence des signes ne suffit pas. Il faut une disposition intérieure pour en tirer profit. C'est pourquoi les savants ont expliqué que cette intelligence qui est mentionnée ici, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « ulil al-bab » dans le Coran, ce n'est pas uniquement une capacité intellectuelle, mais une lucidité du cœur. Une aptitude à relier les choses à leur finalité et à percevoir ce qui dépasse les apparences. Donc deux personnes peuvent observer la même réalité, mais en tirer des conclusions totalement différentes. L'une voit simplement une créature, tandis que l'autre y voit une preuve de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi la méditation sur les créatures ne se limite pas à accumuler des informations ou alors à admirer la beauté du monde. Elle consiste à remonter de la créature vers le créateur, à passer de l'effet à la cause, et à reconnaître à travers ce qui est visible ce qui ne l'est pas. Dans cette perspective, les salafs insistaient sur le fait que la méditation sur la création devait conduire à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ne devait pas s'arrêter à la créature elle-même, au risque de devenir une simple contemplation esthétique ou intellectuelle, dépourvue de portée spirituelle. Il a été rapporté qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait que la méditation est le miroir du cœur. Plus le cœur est pur et sincère, plus il perçoit les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala avec clarté. A l'inverse, plus il est distrait ou endurci, plus ces signes ils deviennent pour lui ordinaires et sans effet. A nous de faire le bilan, de faire notre rétrospection. Comment notre cœur est-il face aux créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala ? Cette idée, elle est confirmée par de nombreux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne que certains voient sans réellement voir, entendent sans réellement comprendre. Le problème ne réside donc pas dans les signes mêmes, mais dans la capacité du cœur à les recevoir. La méditation sur les créatures consiste donc à un exercice spirituel qui nécessite une présence du cœur, une sincérité dans la recherche de la vérité et une volonté de se laisser guider par les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle permet de corriger certaines illusions, car le serviteur peut être tenté de se sentir indépendant puissant ou autonome. Mais lorsqu'il contemple la grandeur de la création, il prend conscience de sa propre faiblesse, de sa dépendance et de la nécessité de se tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi cette forme de méditation, elle joue un rôle fondamental dans l'établissement du tawhid, comme le mentionne l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans plusieurs de ses ouvrages. Cette méditation, elle renforce la reconnaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala comme créateur, comme maître. Ensuite, après avoir évoqué la méditation sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala et montré comment elle conduit le cœur à reconnaître la grandeur d'Allah azza wa jal, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala oriente la réflexion vers un autre domaine fondamental qui concerne directement la vie du croyant, à savoir la méditation sur ce bas monde. Il nous dit « Wafana id-dunya », le caractère éphémère de cette vie d'ici-bas. Et ce passage est particulièrement important car il touche à une réalité dans laquelle le serviteur est constamment immergé. Contrairement aux créatures qu'il peut observer de manière ponctuelle, le bas monde constitue son environnement quotidien, le cadre dans lequel il vit, il agit. C'est précisément cette proximité qui rend sa compréhension plus difficile. Car l'habitude tend à voiler la réalité. Allah Azza wa Jal décrit d'ailleurs ce monde de manière saisissante lorsqu'il nous dit « I'lamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahw wa zina wa tafakhur baynakum wa takathur fil amwali wal awlad » Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala résume la réalité de ce bas monde en plusieurs termes qu'il traduisent ses différentes facettes. Il commence par décrire ce bas monde comme un jeu, la'ib, puis comme une distraction, lahw, avant d'évoquer son apparence embellie, zin, la conception qu'il engendre entre les gens et la recherche d'accumulation qui caractérise justement leurs préoccupations. Cette description n'est pas une exagération, mais une mise en lumière de la nature réelle de ce bas monde lorsqu'il devient une finalité en soi. Le jeu, il renvoie à ce qui est éphémère et sans conséquences durables. La distraction à ce qui détourne de l'essentiel. Et l'embellissement à ce qui attire les regards sans révéler sa véritable nature. On voit donc que le danger de ce bas monde ne réside pas dans son existence, mais dans la manière dont le cœur s'y attache. Lorsqu'il est perçu comme un moyen, il devient une voie vers l'au-delà. Et c'est pourquoi les salafs, ils nous disaient « Ad-dunya qantara, abbaruha wa la tu'ammiruha ». Elle perçoit ce transit comme un moyen qui devient une voie vers l'au-delà. Mais lorsqu'au contraire, il est érigé en objectif, il devient une source de tromperie et d'égarement. Et c'est dans ce sens Allah tabaraka wa ta'ala dit également wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ce verset, il exprime avec force que ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse, parce que le terme ghurur, il indique ce qui donne une illusion de valeur, mais qui en réalité ne correspond pas à la réalité. Le serviteur, il peut être séduit par ce qu'il voit, il peut être impressionné par ce qu'il possède, ou même rassuré par ce qu'il contrôle, alors même que tout cela en réalité est fragile, éphémère et voué à disparaître. Donc la méditation sur ce bas monde, elle consiste à percer cette illusion, à dépasser l'apparence de cette vie mondaine pour atteindre la réalité de l'au-delà. Et c'est en ce sens qu'elle permet aux croyants de voir ce bas monde tel qu'il est réellement, non tel qu'il se présente à lui. Et c'est pourquoi, dans cette perspective, les salafs insistaient sur la nécessité de réfléchir à la rapidité avec laquelle ce monde s'écoule. L'homme peut être absorbé par ses projets, par ses ambitions, par ses préoccupations. Mais le temps, lui, il ne s'arrête pas. C'est cette prise de conscience qui va transformer profondément la manière dont on vit, qui va nous amener à reconsidérer nos priorités et à relativiser ce qui nous occupe, à orienter nos efforts vers ce qui a une véritable valeur durable. De plus, la méditation sur ce bas monde révèle une autre réalité essentielle, l'absence de stabilité. Ce que l'homme obtient est prédestiné et souvent précédé de difficultés, accompagné d'inquiétudes et menacé de disparition. Les richesses, par exemple, demandent des efforts pour être acquises, même si elles sont héritées, mais il y a bien quelqu'un qui a fait des efforts pour les acquérir, puis des efforts pour être conservées. Les relations, elles peuvent changer et les circonstances peuvent se renverser à tout moment. Le croyant comprend donc que ce bas monde ne peut être une source de tranquillité absolue. Il peut y trouver des moments de satisfaction, mais jamais une stabilité complète. Cette stabilité, elle n'existe que dans l'au-delà, dans la vie éternelle. C'est cette compréhension qui produit donc un effet direct sur le cœur, qui conduit pas à abandonner ce bas monde, ni à négliger ses responsabilités, mais qui empêche l'attachement excessif. C'est dans ce sens que les salafs, ils définissaient justement le zuhd, à propos duquel ils ont écrit énormément d'ouvrages, que ce soit Kitab Zuhd d'Ibn Mubarak, Kitab Zuhd de l'imam Ahmed, des livres magnifiques et essentiels. Le zuhd, c'est de ne pas faire de cette vie mondaine une finalité intérieure. Et la méditation sur ce monde, elle permet également de comprendre sa fonction réelle, que ce bas monde est une épreuve, un lieu de passage. Il n'est pas la demeure du repos. Celui qui médite sur cette réalité, il ne se laisse pas surprendre par les difficultés de la vie mondaine. Il sait que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, font partie de la nature de ce bas monde et qu'elles sont une occasion de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne s'étonne donc pas des changements, car il sait que rien n'y est stable. Et il ne s'attache pas excessivement aux bienfaits. Et après avoir médité sur la création, puis sur la réalité de ce bas monde, l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala oriente ensuite le regard du croyant vers ce qui constitue sa véritable destination, à savoir l'au-delà, al-akhirah, il nous dit, wa ahwalil akhirah. Car la méditation sur ce bas monde, elle permet de comprendre qu'il est éphémère et instable. Mais cette compréhension, elle ne produit pleinement ses effets que si elle est accompagnée d'une orientation vers ce qui est durable et permanent. Autrement dit, il ne suffit pas de se détacher de ce bas monde. Il faut également se tourner vers ce qui le remplace. Et ce qui le remplace, c'est l'au-delà. C'est pourquoi la révélation insiste aussi de manière constante sur cette réalité. L'au-delà n'est pas présenté comme une idée abstraite ou lointaine, mais comme une certitude imminente vers laquelle chaque être humain se dirige inexorablement. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à de nombreuses reprises Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ce verset, parmi les derniers révélés, il contient un rappel d'une intensité particulière. Parce qu'il ne décrit pas simplement un événement futur, mais il appelle à en prendre conscience dès maintenant. La méditation sur l'au-delà consiste donc à rendre présent dans le cœur ce qui est encore invisible aux yeux. Elle consiste à vivre avec la conscience constante que la vie actuelle ici-bas n'est qu'une étape intermédiaire et que ce qui vient après est décisif. Et c'est dans ce sens que le Coran décrit de manière détaillée les différentes étapes de ce passage. Il nous évoque la mort, le moment où l'âme quitte le corps, puis la vie dans la tombe, qui constitue le début de l'au-delà, avant même la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit que la tombe est la première des demeures de l'au-delà. Cela signifie que le passage vers l'autre vie ne commence pas le jour du jugement seulement, mais dès que l'âme quitte ce monde. Le serviteur n'est en réalité séparé de l'au-delà que par un instant. Il lui suffit de quitter ce bas monde pour y entrer. Et cette proximité, lorsqu'elle est méditée, elle produit un effet puissant sur le cœur, parce qu'elle enlève toute illusion de distance et elle remplace l'insouciance par la vigilance constante. La méditation, elle se poursuit ensuite sur les événements du jour de la résurrection, ce jour immense au cours duquel les hommes seront rassemblés, jugés et rétribués. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos de ce jour, wa ilayhi al-masir. Cette expression qui est répétée dans de nombreux versets, elle rappelle que toute chose, elle revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ancre dans le cœur la certitude que rien ne sera perdu ni oublié et que chaque action sera prise en compte. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il nous disait que ce bas monde s'en va en tournant le dos, tandis que l'au-delà s'approche. Chacun des deux à des gens qui lui appartiennent. Soyez donc parmi les gens de l'au-delà et ne soyez pas parmi les gens de ce bas monde, car aujourd'hui il y a des œuvres sans jugement et demain il y aura un jugement sans œuvre. Cette parole de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Elle résume de manière saisissante la réalité de la situation humaine. Elle nous montre que le temps de l'action, il est limité, et que le moment du jugement, il est inévitable. Et à travers ce propos, il insiste ainsi à ne pas se laisser absorber par ce qui s'éloigne, mais à se séparer pour ce qui se rapproche. Donc la méditation sur l'au-delà, elle inclut également la réflexion sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala y a préparé comme récompense et comme châtiment. C'est pourquoi le Coran décrit avec précision les délices du paradis et les tourments de l'enfer. Non pas pour satisfaire une curiosité, mais pour orienter le comportement du croyant. Et lorsque on médite sur le paradis, qu'on se représente une demeure de paix, de satisfaction et de récompense, où toute fatigue disparaît, où toute souffrance cesse, et où les bienfaits sont complets et éternels, alors cette représentation, elle nourrit chez nous l'espérance et elle nous encourage à persévérer dans l'obéissance. Lorsque on médite sur l'enfer, on prend conscience de la gravité des conséquences du péché et de la désobéissance. C'est cette prise de conscience qui va nous amener à nous en écarter, mais elle ne vise pas à nous amener à désespérer. Au contraire, elle nous amène à éveiller chez nous une crainte salutaire qui nous protège contre les dérives et nous incite à revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la méditation sur l'au-delà, elle produit cet équilibre entre l'espérance et la crainte. Elle ne pousse ni à la négligence, ni au désespoir, mais elle oriente le cœur vers une pratique sincère et constante. Celui qui mesure la valeur de chaque action, qui pèse ses choix et cherche à investir son temps dans ce qui lui sera bénéfique après la mort, a véritablement compris l'au-delà. C'est pour cela que certains salafs rappelaient régulièrement la mort et l'au-delà. Et c'est pourquoi d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, nous a incité à beaucoup méditer sur la mort et à beaucoup se la rappeler. Non par pessimisme, mais par souci de lucidité. Parce qu'il savait que l'oubli de cette réalité est l'une des causes principales de la négligence. On rapporte parmi les récits des salafs qu'un homme fut conduit auprès d'un cimetière et qu'on lui demanda ce qu'il souhaiterait s'il était à la place de ceux qui y reposent. Et il avait répondu qu'il souhaiterait revenir à la vie pour accomplir de bonnes œuvres. Alors, on lui a répondu qu'il était précisément dans la situation qu'il désirait, parce qu'actuellement, il était encore présent. Et qu'il pouvait encore agir et qu'il devait justement en tirer profit avant qu'il ne soit trop tard et qu'il soit lui aussi dans le cimetière. C'est ce type de rappel qui nous montre que la méditation sur l'au-delà ne doit pas rester théorique. Ça ne suffit pas de dire que on médite sur les versets. Qu'est-ce que ça engendre sur ta pratique? Elle doit produire un changement concret dans la vie. Elle doit amener à agir et à se corriger et à se préparer. C'est ce troisième domaine de la méditation qui constitue l'un des plus puissants moyens de réforme. Il nous donne une direction au cœur, une finalité aux actes et une cohérence à l'ensemble de la vie. Ça devient alors possible de comprendre que la droiture, elle ne peut être maintenue sans cette conscience constante de l'au-delà, car c'est elle qui nous donne du sens à l'effort et qui justifie la persévérance et qui permet de supporter les difficultés. Ensuite, l'imam Nawawi, rahimallahu ta'ala, après avoir orienté le regard vers la création, puis la réalité de ce bas monde et enfin vers l'au-delà, il conclut cette progression par un domaine qui touche directement le serviteur dans ce qu'il a de plus proche, à savoir sa propre âme. Il nous dit justement « wa taqsir in-nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'ala l'istiqama ». C'est ce quatrième domaine qui constitue en réalité l'aboutissement des thématiques précédentes. Étant donné que la méditation sur les créatures, elle conduit à reconnaître la grandeur d'Allah. Celle sur ce bas monde, elle nous amène à relativiser la valeur de ce bas monde. Et celle sur l'au-delà, elle nous oriente vers la finalité. Mais tout ça ne produit son effet complet que si le serviteur revient à lui-même, qu'il observe son propre état. Et il mesure sa conformité à ce qu'il a compris. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala attire l'attention de l'homme sur lui-même lorsqu'il nous dit « Wafi anfusikum afala tubsirun ». Ce verset, il nous appelle à une réforme de méditation particulière qui ne porte pas sur ce qui est extérieur, mais au contraire sur ce qui est intérieur. Il nous invite à nous regarder avec lucidité, à analyser notre propre réalité et à prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous devrions être. Donc la méditation sur l'âme, elle commence par une question fondamentale. Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? En théorie, on connaît tous la réponse. Mais dans le quotidien, comment ça se traduit ? Est-ce que véritablement nous sommes dévoués à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tout ce que nous faisons et nous disons ? Quelle est la finalité de notre existence ? Même si ces questions, elles paraissent évidentes dans la formulation, elles sont souvent négligées dans la pratique. Et le serviteur, il peut vivre, agir et planifier et s'engager dans de nombreuses activités sans jamais s'arrêter pour réfléchir à la finalité de tout cela. Alors que le Coran, il nous rappelle clairement que l'homme n'a pas été créé sans but, ni laissé sans responsabilité. Au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour l'adorer seul sans associé. Toute notre vie, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Toute notre vie, elle doit être orientée vers cette finalité. Lorsque le serviteur, il médite sur cette réalité, il est naturellement amené à s'interroger sur son propre état. Est-ce qu'il est réellement engagé dans cette voie d'adoration ? Est-ce que ses actes, ils correspondent à cette finalité ? Ou alors, au contraire, il est absorbé par des préoccupations secondaires, éphémères, qui l'éloignent de cet essentiel. C'est cette introspection qui constitue la méditation sur l'âme. C'est dans ce sens que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il nous disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Et pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées pour vous. » Cette parole, elle établit un principe fondamental dans la réforme personnelle. Elle nous montre que la responsabilité, elle ne commence pas le jour du jugement. Mais dès maintenant, tous les jours, dans la vie présente, chacun est invité à anticiper ce moment, à se juger soi-même et à corriger ses manquements avant qu'il ne soit trop tard. C'est cette pratique que les savants désignent comme muhasabat an-nafs, qui est indissociable de la méditation. Elle en constitue même une application concrète. C'est comme cela que le serviteur il transforme sa réflexion en action. La méditation sur l'âme, elle ne doit pas donc rester théorique. Elle doit au contraire produire une réaction et une prise de décision et engendrer un changement. Elle doit conduire à corriger nos défauts, à améliorer nos actes et à nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est dans cette perspective que les salafs, ils accordaient justement une attention particulière à l'état du cœur. Et ils ne se contentaient pas d'observer leurs actes extérieurs, mais ils examinaient les intentions. Parce qu'ils savaient que l'âme, elle peut être trompeuse. Parce qu'ils examinaient leurs intentions et leurs motivations et la sincérité de leur engagement. Ils ne se laissaient pas berner par les actions. Ils ne justifiaient pas leurs manquements. Ils ne se détournaient pas de la réalité. C'est pourquoi, justement, ils surveillaient constamment leur âme. Ils la questionnaient, ils la corrigeaient. C'est cette vigilance qui a produit chez eux, justement, cet éveil dans le cœur. Cette vigilance, elle s'inscrit dans une compréhension plus large de la nature de l'âme, que le Coran décrit sous différentes formes. Il nous montre qu'elle peut être apaisée. Elle peut être aussi instigatrice au mal, ou alors encore encline au blâme. Cela signifie donc que l'âme, elle n'est pas figée, mais au contraire qu'elle évolue. C'est la méditation qui joue ici un rôle déterminant. Elle permet justement de prendre du recul et de ne pas agir sous l'impulsion immédiate de ses désirs, de réfléchir aux conséquences de ses actes. Elle permet aussi de reconnaître ses faiblesses sans tomber dans le désespoir et aussi de prendre conscience de ses erreurs sans se justifier. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme intelligent est celui qui se juge lui-même et qui agit pour ce qui vient après la mort. Tandis qu'au contraire, l'incapable est celui qui suit ses passions et qui nourrit des espoirs illusoires. La méditation sur l'âme, elle inclut aussi une réflexion sur les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placés en nous-mêmes. Le corps, les facultés, les capacités intellectuelles, les émotions, tout cela constitue des preuves de la sagesse et de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est en observant sa propre personne que l'on prend conscience de la complexité de la création d'Allah Azza wa Jal, que nous n'avons pas été créés par nous-mêmes, qu'on ne se maintient pas par nous-mêmes et qu'on a besoin d'un seigneur à chaque instant. C'est cette prise de conscience qui renforce justement l'humilité et qui développe la reconnaissance et oriente vers une relation plus sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala, à la lumière de ce que l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala nous a mentionné dans le simple intitulé de ce chapitre. Il nous apparaît clairement que la méditation n'est pas une pratique secondaire dans la vie, mais au contraire un fondement essentiel de la réforme et de la stabilité, et qu'elle nous relie à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers les signes de la création. Elle corrige notre regard sur ce bas monde et elle oriente notre cœur vers l'au-delà, et elle nous permet de nous connaître et de nous réformer. C'est par cette méditation que la science, elle devient vivante, que la foi, elle s'intensifie et que les actes prennent leur véritable sens. Donc dans un monde marqué par la distraction, la rapidité et l'accumulation qui est le nôtre, cette adoration de méditation, elle devient encore plus nécessaire. Elle nous permet de ralentir et de réfléchir et de retrouver le sens de notre existence. Et c'est là tout le sens du choix de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala d'introduire ce chapitre après celui de la droiture, al-istiqama, pour montrer justement que la méditation n'est pas seulement un complément, mais au contraire un moyen indispensable pour parvenir à se maintenir sur cette droiture. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.